Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Hey, you know what?
Les nouveaux chemins se demandent tous les jours si l'amour est une concupiscence. En compagnie de Marianne Chassor, Jean Danielou, Géraldine Mosna-Savoie et Jules Salomon, à la lecture thomiste des textes cette semaine, Georges Kless, à la réalisation d'images de l'essence divine, Midia Portis-Guérin, avec aujourd'hui, à la prise de son, Benjamin Vignal. François Nudelman vous donne rendez-vous à 10h50 pour son journal de la philosophie. François qui aujourd'hui s'entretiendra avec Karine Lounissi pour La pensée politique de Thomas Paine, paru chez Honoré Champion. Quant à nous, c'est le dernier temps aujourd'hui de notre semaine sur la pensée du Moyen-Âge, qui en littérature comme en philosophie et en théologie, tente d'allier grâce divine et liberté humaine, intimité et transcendance, antiquité et christianisme. Alors après Chrétien de Troyes et le Comte du Graal, la divine comédie de Dante et Maître et Carte, affrontons le paradoxe de face. Comment concilier théologie et philosophie ? Pourquoi philosopher quand on croit en Dieu ? Et que faire du Dieu des croyants quand on est philosophe ?
Aujourd'hui, je dirais volontiers que pour un philosophe chrétien, revenir à saint Thomas, aller à la rencontre de saint Thomas, c'est pour le philosophe chrétien son ressourcement. La question de la philosophie chrétienne n'est pas simple, car l'édifice philosophique, comme tout édifice proprement humain, ne peut pas avoir la simplicité absolue de ce qui descend directement de Dieu.
J'espère que mes paroles ne vous ont pas offensé, frère Guillaume. Et j'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence.
Oui, c'est vrai. Saint François, parfois, ne répugnait pas à rire.
Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe.
Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme.
Comme le péché. Le Christ n'a jamais ri.
En sommes-nous si sûrs ?
Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur ait ri.
Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur n'ait pas ri. On sait que les saints eux-mêmes usaient de la comédie pour ridiculiser les ennemis de la foi. Par exemple, quand les païens mirent saint Maure dans l'eau bouillante, celui-ci se plaignit que le bain était trop froid, le sultan y plongea les doigts et s'ébouillant à la main.
Un saint immergé dans un bain bouillant n'a pas de ses puérilités ridicules. Il retient ses cris et souffre pour la vérité.
Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie et il en fait un instrument de vérité.
Vous avez lu cet ouvrage ?
Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles.
Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités.
Non, là, je ne suis absolument
assez
pas...
Assez ! Cette abbaye est brisée de souffrance. Et vous voulez nous détourner de notre deuil par ce vain persiflage ?
Pardonnez-moi, vénérable Jorge. Mes propos, en effet, étaient déplacés.
Bonjour, Willy Imbar.
Bonjour.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Vous êtes professeur de philosophie médiévale à l'Université Paris-Sorbonne, spécialiste de Dante et de la philosophie de Thomas d'Aquin, dont nous parlons aujourd'hui. On vient d'entendre un extrait du Nom de la Rose, donc le livre d'Umberto Eco, ici une adaptation cinématographique de Jean-Jacques Haneau, qui date de 1986, le Nom de la Rose, qui donne à voir brillamment ce conflit qu'il peut y avoir entre d'un côté la raison et de l'autre la foi, puisque nous sommes ici en 1327, donc c'est après l'œuvre de Thomas d'Aquin, mais la perspective est la même. Comment faire ? Peut-on argumenter ? Lorsque les arguments ne sont pas les mêmes de part et d'autre, est-ce qu'un croyant peut argumenter avec un non-croyant quant à la place de l'écriture elle-même dans la foi et dans la philosophie ?
Oui, cet extrait est extrêmement intéressant parce qu'il soulève un certain nombre de questions qui se posent effectivement pour les penseurs médiévaux. Évidemment, d'un côté, le rire qui est le propre de l'homme et qui en quelque sorte est le sujet du Nom de la Rose. Et puis ensuite, cette question, est-ce que Aristote a écrit cette seconde partie de la rhétorique ou non ? Nous sommes donc en 1327, la réception d'Aristote, c'est-à-dire le retour d'Aristote dans le monde européen, est accompli à ce moment-là. On a traduit toutes les œuvres d'Aristote à partir de 1150 jusque vers 1255. À ce moment-là, on disposait à peu près de l'ensemble des œuvres. Et cette réception d'Aristote est évidemment un des problèmes majeurs de la pensée médiévale, parce que Aristote pose de nouvelles questions, et puis surtout, Aristote, en quelque sorte, donne des réponses à toutes les questions qu'on pouvait se poser aussi en tant que chrétien. Mais il donne des réponses qui ne sont pas toujours identiques à celles que donne la foi chrétienne. Maintenant, il est intéressant aussi de noter que nous ne sommes pas dans l'ordre dominicain, dans le nom de la rose, ce sont des franciscains ou des bénédictins, mais pas des dominicains.
Rappelons que Thomas d'Aquin était dominicain.
Voilà. Et le rapport de la culture de ces deux ordres à la philosophie et à Aristote est très différent. Umberto Eco, dans son roman, fait beaucoup allusion, au moins indirectement, à Guillaume d'Ockham, qui est un des représentants majeurs de la pensée franciscaine et qui, d'un côté, au moins dans la logique, essaye de renouveler la pensée aristotélicienne, mais en même temps est un critique d'Aristote. Et puis surtout, il conçoit le rapport entre philosophie et théologie tout à fait différemment que Thomas d'Aquin. Pour lui, il est essentiel de comprendre que la théologie n'est pas une science. Et pour Thomas d'Aquin, au contraire, la théologie est une science. Donc, déjà sur ce point-là, nous sommes dans un tout autre monde, dans le nom de la rose et à l'Université de Paris vers 1255 ou vers 1270, lorsque Thomas d'Aquin y enseigne.
Mais lorsque Thomas d'Aquin se place en lecteur d'Aristote, qu'il est plus que tous les autres, hein, la philosophie de Thomas d'Aquin reprend parfois vraiment point par point la philosophie d'Aristote, il y ajoute cependant quelque chose qui est son christianisme, qui est non seulement le fait qu'il croit en Dieu, mais également qu'il appartienne, vous l'avez dit, à un ordre religieux qui est celui des dominicains. Ce qui pose la question de la compatibilité entre Aristote et le christianisme. Peut-on parler de philosophie chrétienne ? Est-ce que l'expression a un sens ou est-ce que le problème n'est pas, comme le disait Olivier Lacombe, dont on a le philosophe français, dont on a entendu la voix en début d'émission, le problème n'est-il pas que la philosophie chrétienne n'aura jamais la simplicité de ce qui descend de Dieu dans la foi ?
Alors, dans ce que vous dites, il y a énormément de problèmes qui se posent. Nous allons peut-être revenir
on a 50 minutes pour les déplier,
au thème de la philosophie chrétienne. D'abord, en ce qui concerne Thomas d'Aquin et Aristote. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous pouvons partir de l'idée que vers 1255, l'ensemble des œuvres d'Aristote est connu. Parce que c'est à cette date-là que l'ensemble des œuvres d'Aristote est inscrit dans les matières d'examen à la Faculté des Arts de Paris. Ensuite, Thomas d'Aquin et Aristote. N'oublions pas que Thomas d'Aquin a commenté 13 œuvres d'Aristote. Et il n'a pas commenté ça au début de sa carrière, mais vers la fin de sa carrière. Ce qui veut dire qu'il y accordait une grande importance. Et lorsque Thomas d'Aquin commente Aristote, il ne confond pas la perspective du théologien et celle du philosophe. Au contraire, il sait très bien distinguer les deux choses. Pourquoi commente-t-il Aristote ? C'est une question à laquelle je réfléchis depuis longtemps et à laquelle tous les interprètes de Thomas réfléchissent, car cela peut nous étonner, n'est-ce pas, que l'auteur de la Somme théologique accorde tant d'importance à expliquer la lettre d'Aristote, de trouver ce qu'il appelle, lui, l'intention du philosophe. Alors, pour comprendre, je crois, ce projet, qui est un projet immense, il faut rappeler un certain nombre d'autres choses. Lorsque Aristote est revenu dans le monde latin, jusque vers 1150, on connaissait de lui que trois œuvres de logique. Et progressivement, pendant environ 100 ans, on a traduit soit de l'arabe en latin, soit du grec en latin Aristote. Et Aristote est entré dans le monde latin je dirais, en compagnie de deux philosophes musulmans ou arabes, Avicenne et Averroès. Et Averroès a été connu dans le monde latin à ce moment-là essentiellement comme commentateur d'Aristote. On l'appelait même le commentateur. Or, dans ses commentaires d'Aristote, Averroès essaye, selon lui, n'est-ce pas, de montrer, je m'exprimerai de cette façon-là, la pensée nue d'Aristote, sans vouloir la concilier avec la foi musulmane. Donc, Aristote entre en compagnie d'Averroès dans le monde latin. Or, je crois que Thomas d'Aquin, au cours de sa carrière, a de plus en plus compris que la manière dont Averroès interprète Aristote est une manière qui le rend inconciliable avec la foi chrétienne. Ceci dit, n'est-ce pas, il ne faut pas sous-estimer l'influence d'Averroès sur Thomas. Je dis toujours, Thomas trouve sa propre pensée en discutant avec Averroès, avec Avicenne et avec Maïmonide, qu'on ne doit pas oublier non plus. Mais je crois que c'est une sorte de découverte progressive que fait Thomas. Et puis en même temps, il faut ici rappeler d'autres données historiques. À la faculté des arts, n'est-ce pas, la faculté que plus tard on appellera la faculté de philosophie, l'entrée d'Aristote a changé totalement la situation. Cette faculté des arts, au début de l'Université de Paris, c'est-à-dire dans les années 20 du XIIIe siècle, était une faculté de propédeutique où on enseignait les sept arts libéraux. Mais la découverte d'Aristote a donné soudainement à la fois à cette faculté et aux professeurs de cette faculté un tout autre statut. Tout à coup, cette faculté disposait, comme je le disais tout à l'heure, de textes qui répondaient à toutes les questions. La physique, la morale et même la théologie philosophique, puisque on sait bien que le 12e livre de la métaphysique d'Aristote contient une théologie. Et donc, cela a complètement transformé la situation des philosophes de la faculté des arts. Et donc, au moment où Thomas d'Aquin écrit la Somme théologique, nous avons un auteur à la faculté des arts de Paris qui s'appelle Boëce de Dacy, qui écrit un petit traité du souverain bien ou de la vie philosophique, un traité qui dit « Par la philosophie, on arrive à la perfection de l'homme ».
Il fut nécessaire pour le salut de l'homme qu'il y eût, en dehors des sciences philosophiques que scrute la raison humaine, une doctrine procédant de la révélation divine. Le motif en est d'abord que l'homme est destiné par Dieu à atteindre une fin qui dépasse la compréhension de son esprit. Car, dit Isaïe, « L'œil n'a point vu, ô Dieu, en dehors de toi, ce que tu as préparé à ceux qui t'aiment. » Or, il faut qu'avant de diriger leurs intentions et leurs actions vers une fin, les hommes connaissent cette fin. Il était donc nécessaire pour le salut de l'homme que certaines choses, dépassant sa raison, lui fussent communiquées par révélation divine. À l'égard même de ce que la raison était capable d'atteindre au sujet de Dieu, il fallait aussi que l'homme fût instruit par révélation divine. En effet, la vérité sur Dieu, atteinte par la raison, n'eût été le fait que d'un petit nombre, elle eût coûté beaucoup de temps et se fût mêlée de beaucoup d'erreurs. De la connaissance d'une telle vérité, cependant, dépend tout le salut de l'homme, puisque ce salut est en Dieu. Il était donc nécessaire, si l'on voulait que ce salut fût procuré aux hommes d'une façon plus ordinaire et plus certaine, que ceux-ci fussent instruits par une révélation divine. Pour toutes ces raisons, il était nécessaire qu'il y eût, en plus des disciplines philosophiques, œuvre de la raison, une doctrine sacrée acquise par révélation.
Au début de la Somme théologique, dans le texte qu'on vient d'entendre interprété par Georges Claes, Thomas d'Aquin décrit ce double mouvement, qui est celui de l'homme, d'un côté d'atteindre Dieu par la raison, ce qui est seulement accessible à un petit nombre de personnes, dit-il, et de l'autre, se rendre disponible pour la révélation divine, comme si l'homme devait tenir ensemble ces deux dimensions, l'une de travail par la raison en direction de Dieu, et l'autre au contraire de travail peut-être de détachement, comme dirait Maître Eckhart ensuite, je ne sais pas si le parallèle est judicieux, pour au contraire se rendre réceptif à la parole divine. Mais pour autant, si les deux mouvements semblent être liés de manière nécessaire, comme nous dit Thomas d'Aquin, ils ne sont pas forcément simultanés. Ou alors comment, en tant que philosophe, peut-il les penser de manière simultanée, dès lors que l'un d'entre eux n'est pas accessible à la raison ?
Je crois, n'est-ce pas, un des efforts majeurs de Thomas d'Aquin était précisément de montrer que foi et raison ne s'opposent pas, mais se complètent. Mais pour revenir au texte que nous avons entendu, il faut le situer historiquement. Et c'est un texte tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas ? Quand il dit, au début, il faut se poser la question si en dehors des sciences philosophiques, il était nécessaire qu'il y ait une doctrine sacrée. Il fait ici allusion à une situation réelle, en quelque sorte, à la faculté, à l'université de Paris, n'est-ce pas ? Comme je le disais tout à l'heure, il y avait d'un côté des philosophes qui auraient répondu à cette question, non, la philosophie se suffit à elle-même. La philosophie non seulement est indépendante de la théologie, mais au fond, elle possède tout ce dont l'homme a besoin pour être heureux. Alors, face à ces gens-là, Thomas d'Aquin dit « Non, il faut, en plus de l'effort philosophique, une théologie. » Mais si nous continuons à regarder ce texte, et surtout si on le met en rapport avec d'autres passages de la Somme théologique, ce qui est extrêmement intéressant, et à quoi, je trouve, les interprètes de Thomas ne sont pas toujours assez attentifs, c'est qu'il dit effectivement la véritable fin de l'homme, l'homme par lui-même ne peut pas la connaître. Mais là, il faut être plus nuancé, plus précis. Parce que Thomas d'Aquin a une conception du bonheur qui est tout à fait aristotélicienne, n'est-ce pas ? L'homme désire connaître. Et c'est ce désir de connaissance qui définit sa fin. Et comme il le dira au début de la première partie de la Somme théologique, qui contient un véritable traité sur le bonheur, il ne pourra atteindre le vrai et le parfait bonheur que dans la vision de l'essence divine. Or, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que Thomas montre, avec les moyens de la raison, que l'homme ne peut pas atteindre le but que les philosophes, Aristote en premier, lui prescrivent, lui montrent, n'est-ce pas ? Mais c'est par les moyens et des arguments philosophiques qu'il montre ces déficiences.
Ce qui fait quand même de la philosophie une simple propédeutique à la religion.
Je ne dirais pas une simple propédeutique. Alors, effectivement, Thomas, il utilise cette formule qui n'est pas de lui, qu'elle est la servante, n'est-ce pas ? Mais là, il est très important, et parfois, sous mode de boutade, je dis, n'est-ce pas ? Thomas est parfois amoureux de la servante, n'est-ce pas ? Parce que, non seulement, si vous voulez, elles ont un rapport harmonieux, là, philosophie et la théologie, mais en même temps, il reconnaît pleinement, et là encore j'insiste sur ce point, l'indépendance de la philosophie. Et ce n'est pas une simple propédeutique, n'est-ce pas ? Elle a son autonomie, elle a sa signification à elle et en elle-même.
Voilà en quoi consiste la dignité de l'homme. Seule ici-bas, cette créature de Dieu n'est pas un instrument passif aux mains du Créateur. Mais c'est en quoi consiste aussi la responsabilité qui pèse sur elle. Responsabilité effroyable, lorsqu'on pense que c'est son propre sort qui se trouve ainsi remis en son pouvoir. Il s'agit pour l'homme de se maintenir dans l'ordre et de se sauver, ou de se soustraire à l'ordre et de se perdre. Tel est le drame d'une destinée dont il est à la fois l'acteur et, par une délégation de la liberté parallèle à la délégation divine de la causalité aux êtres, l'auteur. La morale est la science de la manière dont l'homme doit se comporter pour que l'histoire de sa vie ait une issue heureuse. Et nous verrons que, par une conséquence nécessaire du principe dont nous sommes partis, le souci de diriger sa vie vers une fin heureuse coïncide avec celui de porter à son degré suprême de perfection sa propre humanité. S'il en est ainsi, nulle tâche plus urgente pour celui qui étudie la morale que d'exercer une critique sévère des fins que se proposent les actions humaines et de pratiquer entre elles un judicieux discernement. Rudy Imbard, si le fait que la philosophie ne soit pas une propédeutique à la religion, mais disons au moins une servante, selon les termes de Thomas d'Aquin, sans que cela pour autant ne diminue l'importance de la philosophie pour Thomas, ça pose quand même des problèmes, pour le coup philosophiques, mais bon, c'est ici en tant que philosophe que nous avons cette discussion, notamment à travers le texte que je viens de lire, qui traitait des textes sur la morale de Thomas d'Aquin, celui de la position des fins de la vie humaine, puisque en tant que théologien comme en tant que philosophe, lorsque l'on réfléchit sur l'homme et le statut d'un dieu ou de dieu, nous posons la question des fins. Quel est le but de la vie humaine? Si celui-ci est le bonheur, alors la réponse est différente selon qu'on se situe du point de vue de la religion ou du point de vue de la philosophie. Pour la philosophie, atteindre son bonheur, cela est possible de manière pratique. C'est le sens d'un texte sur la morale, c'est qu'il va énoncer une certaine pratique, mettre à l'épreuve des principes par ailleurs théoriques pour voir si ceux-ci peuvent conduire au bonheur. D'un point de vue religieux, c'est bien différent, puisque nous sommes obligés de prendre en compte un point de vue, disons, d'ordre théologique ou religieux au sens institutionnel, et se poser la question du rôle de Dieu dans l'agir humain. C'est la question que pose Thomas d'Aquin dans le texte que je viens de lire, à savoir est-ce que l'homme est responsable de ses actions ou si sa liberté vient du Dieu qu'il a créé par ailleurs. Selon le point de vue où on se situe, les réponses à cette question seront complètement différentes. Alors comment s'en sort-on?
Oui, là encore, vous touchez à beaucoup de problèmes différents et il faut essayer de serrer un peu. Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que effectivement, pour Thomas d'Aquin, il n'y a qu'une seule fin ultime. Je dirais de manière assez prudente que cette fin ultime, on peut, selon lui, philosophiquement apercevoir et saisir. C'est, pour le dire en termes aristotéliciens, et Thomas lui-même le formule ainsi, c'est la connaissance parfaite de l'objet le plus parfait, de la manière la plus parfaite, n'est-ce pas ? C'est donc la connaissance intellectuelle de Dieu aussi parfaitement que possible. Cela, je dirais, philosophiquement, selon lui, toujours, n'est-ce pas, on peut le saisir. Le philosophe peut également comprendre que cela n'est pas possible ici et maintenant, sur cette terre. Et c'est là que, en quelque sorte, comme je le dis parfois, la théologie et la foi chrétienne vient sauver la philosophie. Parce que, comme dit Thomas d'Aquin lui-même dans certains textes, n'est-ce pas, ce que les philosophes peuvent appréhender et saisir comme fin et ce dont ils comprennent qu'on ne peut pas l'atteindre philosophiquement, la foi nous enseigne que nous pouvons le réaliser après la mort. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute, il n'y a qu'une seule fin, selon lui, dont la réalisation nous est assuré, selon lui, par la foi. Mais le deuxième aspect que je voudrais mettre en évidence, c'est que, au fond, il y a une sorte de passage harmonieux de ce que la raison peut saisir et de ce que la foi enseigne. Maintenant, je reviens à un aspect que le texte de Olivier Lacombe déjà a touché et vous y êtes revenu. Est-ce que Thomas d'Aquin est un philosophe chrétien? Je répondrai de manière extrêmement brutale, non. Thomas d'Aquin est un théologien et il est un philosophe. Et je ne crois pas qu'il existe une philosophie chrétienne comme Gilson, Lacombe et Maritain l'ont cru. La philosophie est l'œuvre de la raison et de la raison seule, mais elle peut entrer en discussion avec la théologie. Alors, pourquoi je dis cela de manière aussi radicale? Il y a eu, notamment dans le monde intellectuel français, des années 30 jusque vers les années 50, un grand débat sur la possibilité de la philosophie chrétienne. Gilson et Maritain prétendaient que cela était possible et c'était même une voie pour la philosophie des croyants aujourd'hui. Alors, pour préciser ici les choses, je dirais, tout dépend évidemment pourquoi et comment nous voulons lire Thomas d'Aquin. Et moi, je vous répondrai là aussi de manière un peu brutale. Je suis historien de la philosophie et je le lis en philosophe. Cela ne veut pas dire que Thomas d'Aquin était, lui, seulement un philosophe. Il était philosophe et théologien, et peut-être même, selon sa propre appréhension des choses, il aurait dit « je suis d'abord théologien ». Mais je pense que nous avons le droit, et en quelque sorte en tant qu'historien de la pensée occidentale, même le devoir de le lire en philosophe. Et je dis cela aussi avec un peu d'emphase, parce qu'il y a une célèbre phrase de Gilson qui dit « Nous ne pouvons comprendre Thomas d'Aquin que si nous le lisons en théologien ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire en théologien? Je suis d'accord qu'il faut ne jamais oublier que ce que Thomas d'Aquin voulait, lui, c'était faire de la théologie et parfois de la philosophie. Donc, historiquement, et l'autocompréhension, si je puis m'exprimer ainsi, de Thomas, était d'être un théologien. Mais moi, je ne suis pas théologien et je suis intéressé, je dirais, par l'histoire intellectuelle européenne. Et je regarde ce que, du point de vue de l'histoire de la rationalité, la pensée thomiste apporte. Et là, je vois qu'il est en discussion avec toutes sortes d'arguments, qu'il essaye de concilier une perspective aristotélicienne avec ce que lui entend par foi, n'est-ce pas ? Et je peux analyser cette correspondance et ces connexions sans, et là encore je cite Gilson de manière un peu polémique, n'est-ce pas ? Gilson dit quelque part, la foi chrétienne n'est pas une raison suffisante pour comprendre Thomas d'Aquin, mais une raison indispensable. Et je réponds avec véhémence que non. Je crois qu'en tant qu'historien de la philosophie, sans faire profession de foi chrétienne, je suis capable de comprendre la pensée de Thomas d'Aquin. Je sais bien que ça ne plaira pas à tout le monde si je dis cela, mais je le crois profondément et c'est comme cela que j'essaye de comprendre Thomas.
Deux points sont à observer dans la bonne organisation du gouvernement d'une cité ou d'une nation. D'abord, que tout le monde participe plus ou moins au gouvernement, car il y a là une garantie de paix civile, et tous chérissent et soutiennent un tel état de choses. L'autre point concerne la forme du régime de l'organisation des pouvoirs. On sait qu'il en est plusieurs, distingués par Aristote. Mais les plus remarquables sont la royauté, ou domination d'un seul selon la vertu, et l'aristocratie, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs, ou domination d'un petit nombre selon la vertu. Voilà donc l'organisation la meilleure pour le gouvernement d'une cité ou d'un royaume. À la tête est placé, en raison de sa vertu, un chef unique ayant autorité sur tous. Puis viennent un certain nombre de chefs subalternes qualifiés par leur vertu. Et cependant, la multitude n'est pas étrangère au pouvoir ainsi défini, tous ayant la possibilité d'être élus et tous étant, d'autre part, électeurs. Tel est le régime parfait, heureusement mélangé de monarchie par la prééminence d'un seul, d'aristocratie par la multiplicité de chefs vertueusement qualifiés, de démocratie, enfin, ou de pouvoir populaire, du fait que de simples citoyens peuvent être choisis comme chefs et que le choix des chefs appartient au peuple.
Rudy Imbar, alors je vous laisse la responsabilité de l'affirmation selon laquelle Thomas d'Aquin ne serait pas un philosophe chrétien, et même voir que l'expression n'a pas forcément un sens, mais en tout cas je renvoie les auditeurs à la lecture de Thomas lui-même, des textes de Thomas, pour pouvoir juger de la validité de cette affirmation. C'est une discussion qui est vraiment passionnante et à mon avis dont on est loin d'avoir fait le tour. Mais j'aimerais évoquer quand même, puisque l'occasion nous est donnée de parler de Thomas d'Aquin, un aspect de sa pensée qui est sans doute moins connu et qui est en lien direct avec ce qu'on vient de dire, qui est une dimension politique. Donc s'il y a deux aspects, on va dire, à la philosophie de Thomas d'Aquin, une dimension spéculative et une dimension pratique. J'ai lu un texte qui faisait partie de la dimension morale. Ici, nous sommes dans le domaine politique. Thomas d'Aquin affirme donc que l'organisation la meilleure pour le gouvernement d'une cité ou d'un royaume était donc celle de voir à sa tête placer, en raison de sa vertu, un chef unique, ayant autorité sur tous, puis ensuite des chefs subalternes. Voilà, tel est le régime parfait, dit-il. La question se pose à nouveau frais de savoir quel est le lien entre, d'un côté, la théologie et de l'autre, la philosophie, puisque c'est comme s'il proposait, dans l'organisation humaine, une hiérarchie qui est celle soit de l'institution religieuse, soit en tout cas de Dieu qui vient surplomber les hommes.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne l'interprétation de ce texte. D'abord, je crois que ce texte est un exemple très intéressant pour montrer ce que je veux dire. Je veux, dis-je, en tant qu'historien de la pensée, voir quel est l'apport de Thomas d'Aquin à l'histoire de la rationalité. Ce texte est très intéressant parce que, d'un côté, on voit bien que Thomas d'Aquin est un auteur du XIIIe siècle. Il n'a connu comme régime politique que la monarchie. Il n'a pas eu la chance d'aller en Suisse. Et donc, pour lui, en quelque sorte, la monarchie est la forme de gouvernement qui, en quelque sorte, va de soi. Mais si nous lisons attentivement le texte que nous avons entendu, il dit « Pour une bonne organisation du gouvernement, il faut que tout le monde participe plus ou moins au gouvernement. » Et donc, ayant en quelque sorte comme arrière-fond la monarchie, il fait un pas extrêmement important, je dirais, vers la pensée de la démocratie. Des choses aussi importantes dans l'histoire des idées et de la pensée, cela ne peut pas se faire en un jour. Cela se fait progressivement. Et ici, nous avons un moment extrêmement significatif, je dirais, vers une conception de la démocratie et de la souveraineté populaire. Parce que il dit, au fond, à la fin, non pas ici, que c'est la monarchie, le gouvernement le plus parfait. C'est le gouvernement mixte.
Un mélange de monarchie, d'aristocratie et de démocratie, puisque le choix des chefs appartient au peuple, dit-il.
Là, d'abord ça, et puis vous avez bien noté, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il dit comme caractéristique de la démocratie, c'est-à-dire le fait de pouvoir élire les chefs et le fait de pouvoir être élu. Donc nous avons ici un pas décisif, je dirais, vers non pas la démocratie, mais une pensée qui tend vers la démocratie. Et là encore, il ne faut pas oublier l'histoire du thomisme, n'est-ce pas ? Jacques Maritain, pour le mentionner, à partir des années 30 du siècle précédent, prétendait, lui, que Thomas d'Aquin est le plus grand penseur de la démocratie. Je ne pense pas que l'on puisse dire cela de manière aussi directe, mais il est incontestable qu'il y a dans la doctrine thomasienne politique des éléments démocratiques très importants. Parce que nous avons chez lui aussi l'idée que le législateur, c'est le peuple, n'est-ce pas ? Ou ceux qui, disons, le représentent. Donc, cela, ce sont des pas décisifs dans la théorie d'abord vers une pensée de la démocratie. Et, n'est-ce pas, en tant qu'historien de la pensée politique, pour moi, il est essentiel de découvrir ces éléments-là et dire cela fait partie, comme je le disais et comme je le dis avec Paul Vignon, partie de l'histoire de la rationalité européenne.
Et cette importance que Thomas d'Aquin accorde à la politique et même ce primat de la politique sur l'éthique chez Thomas d'Aquin, dans quelle mesure est-elle influencée par sa lecture d'Aristote ? Parce qu'il a énormément lu et commenté les politiques d'Aristote, donc il sait ce qui s'y trouve. Et pourtant, il franchit un pas de plus, puisque si une grande partie repose sur les principes aristotéliciens de la politique, il y a quand même ce pas que vous pointez vers une forme de démocratie, n'est pas un contresens avec ce qu'écrit Aristote, mais enfin quand même, il y a un pas en plus qui est franchi.
Et je suis très content que vous abordiez ce problème-là, parce que là encore, cela nous montre ce que nous pouvons, en tant qu'historiens de la pensée, découvrir. En effet, nous constatons que la découverte de la politique d'Aristote, qui n'était pas connue par les auteurs arabes et qui a été traduite pour la première fois dans les années 60 du XIIIe siècle, Albert le Grand, le maître de Thomas d'Aquin, et Thomas d'Aquin sont les premiers lecteurs de cette œuvre d'Aristote. Or, la découverte de cette œuvre est extrêmement importante pour ce qu'on peut appeler la constitution de la philosophie politique comme discipline. Si vous voulez, ce qui précède cette découverte atteste le fait que non seulement on ne savait pas très bien ce que contenait cette discipline qu'on appelait bien la politica parce qu'on n'avait pas de texte, et puis surtout Albert le Grand en premier, et puis ensuite Thomas d'Aquin, donne une véritable place à la philosophie politique dans la maison de la science, ce qui n'existait pas auparavant. Et là, encore une fois, nous voyons quel progrès que cela représente. Non seulement on donne une place à la politique, mais on reconnaît sa légitimité, son importance. C'est une science, comme il dit lui-même dans le prologue de la politique, une science architectonique qui, au fond, est la philosophie première de la philosophie pratique, comme la métaphysique est la philosophie première de la philosophie spéculative. Et je suis très content qu'on parle de cet aspect de la pensée thomasienne parce que, bien sûr, c'est un grand métaphysicien. C'est lui qui a développé les preuves de l'existence de Dieu les plus connues, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a apporté un changement décisif et significatif pour la pensée politique dans l'Europe médiévale. Et je crois qu'il est dangereux vouloir actualiser trop facilement les auteurs du Moyen Âge, mais de constater que dans le monde chrétien du XIIIe siècle, on fait un premier pas vers la séparation de l'Église et de l'État, me semble-t-il, est important et significatif.
Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le lire, justement, ce texte-là, et le fait qu'il parle de science politique, et effectivement, qui est chez lui une forme de discipline architectonique, vous l'avez dit. Est-ce qu'il faut y voir ici les prémices de la séparation de l'Église et de l'État, alors que lui reprend, Aristote, cette idée de l'homme comme étant un animal politique, il décrit les organisations idéales. Est-ce que c'est complètement indépendant, ou dans quelle mesure est-ce totalement indépendant du reste de sa pensée, puisque affirmer le primat de la communauté sur l'individu, c'est le sens de sa pensée politique, peut être contradictoire avec d'autres affirmations qui, par ailleurs, semblent partir de la nature elle-même, alors non pas du sujet, le terme sera anachronique, mais où la communauté n'a pas le dessus, n'est pas supérieure à l'être humain lui-même, y compris. Donc, du coup, là, si on en revient à sa pensée théologique.
Oui. Alors, n'est-ce pas, là encore, il faut être très prudent. Il serait évidemment incorrect, je pense, et même faux, de faire de Thomas d'Aquin un auteur qui a développé une théorie très précise sur la séparation de l'ordre politique et de l'ordre ecclésial. Là encore, évidemment, il voit les choses de manière très harmonieuse. Ce qui est intéressant, c'est que, je dirais, sur la base des textes thomasiens et aristotéliciens, deux générations plus tard, Dante, lui, va pouvoir développer une doctrine de la séparation de l'ordre politique et de l'ordre ecclésial. Parce qu'il va encore plus accentuer que Thomas l'a fait, la séparation entre ce qui est de l'ordre de la raison et ce qui est de l'ordre de la foi. Et évidemment, cela est lié à des événements politiques et à une accentuation très forte par le pape Boniface VIII, notamment dans la bulle Unam Sanctam, de la primauté politique de l'Église romaine. Et c'est face à cela que Dante va dire, et on voit bien quelle est la différence de sa pensée avec celle de Thomas, qu'il y a deux béatitudes de l'homme, une béatitude de la vie ici-bas et une béatitude dans l'au-delà. Cela dans la monarchie, qui est une œuvre très importante. Et il va développer une théorie selon laquelle on ne doit pas confondre les deux ordres, une théorie selon laquelle l'Église ne doit en aucun cas avoir un pouvoir politique et vouloir se mêler de l'ordre politique.
Une théorie de la laïcité, au fond.
Bien entendu, ça fait longtemps que j'essaye de défendre Dante comme un penseur de la laïcité.
Et est-ce que vous affirmerez la même chose à propos de Thomas d'Aquin ?
Non, comme je le disais tout à l'heure, cela serait exagéré, mais Thomas d'Aquin, en quelque sorte, a préparé cela en instituant la philosophie politique comme une discipline philosophique autonome aussi de la théologie, au moins en principe.
Et pourtant, Thomas d'Aquin a produit une œuvre, alors non seulement une somme théologique, mais une œuvre, alors pour reprendre l'expression, comme un système architectonique, puisque toutes les disciplines auxquelles il consacre des textes, sur lesquels il réfléchit, s'imbriquent. Disons que ce soit le domaine de la morale, de la métaphysique, de la science, de la politique, même y compris de la théologie, toutes ces disciplines ne sont pas totalement indépendantes. Y a-t-il cette volonté de faire un tout, un système clos chez Thomas d'Aquin ? Et si c'est le cas échéant, où se situe la théologie, pour revenir à la discussion qu'on avait, est-ce qu'elle est en dehors de ce système ? Ou trouve-t-il un moyen, quand bien même la philosophie serait la servante de la théologie, d'insérer la théologie au sein de son système de pensée ?
Alors, comme je le disais déjà, et je le répète aussi très clairement, Thomas d'Aquin est théologien et il veut être théologien. Et pour lui, effectivement, c'est la théologie qui couronne l'ensemble. Mais ce à quoi je tiens, c'est que dans cet ensemble, et il y a une discipline qui a son autonomie et son indépendance, et c'est la philosophie. Une des phrases de Thomas qui, pour moi, est parmi les plus significatives et les plus importantes, est une citation de Denis l'Aréopagite qu'il répète beaucoup, notamment dans le traité de la morale de la somme théologique. Le bien de l'homme, c'est de vivre conformément à la raison, n'est-ce pas ? Et à aucun moment, on doit oublier cela. Et il y a chez lui une confiance dans la raison humaine qui est tout à fait remarquable et que même quelqu'un comme Gilson a tout à fait reconnu en disant que parfois, il y a un véritable culte de la raison chez Thomas d'Aquin.
Mais du coup, on y voit presque le début de l'humanisme, voire des Lumières. L'homme serait la mesure de toute chose dès lors qu'il peut avoir une confiance totale en sa raison.
Non, il n'est pas la mesure de toute chose, parce que la raison thomasienne est une raison qui est contemplative et qui découvre un ordre qui existe déjà. Et ce n'est pas une raison, en quelque sorte, créatrice. C'est une raison, si vous voulez, qui appréhende ce qui est et qui admire ce qui est en trouvant dans ce qui est quelque chose de très beau.
Merci beaucoup, Rudy Imbard, d'être venu nous parler de Thomas d'Aquin aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à plusieurs ouvrages. D'abord, La Somme contre les gentils de Thomas d'Aquin. On la trouve en 4 volumes aux éditions Garnier Flammarion. Et puis de vous, on peut lire La philosophie de Thomas d'Aquin dans la collection Repères, toujours chez Vrin, coécrit avec Adriano Oliva. Et enfin, j'annonce la parution prochaine d'un ouvrage de votre part, Le défi laïque. On en a un peu parlé aujourd'hui, toujours chez Vrin, ce sera pour le printemps prochain. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est l'heure, comme tous les jours, de...